franceinter.fr.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles et au moment où le Centre Pompidou, c'est lui, célèbre son 40e anniversaire, retour sur l'histoire tumultueuse de sa création dans les années 70. 34 ans après son ouverture, Beaubourg, c'est le mariage réussi, apprécié de l'art, de la littérature et de l'audiovisuel au sein d'une même structure, novatrice à l'identité visuelle reconnue dans le monde entier. Mieux même, au fil des années, Beaubourg s'est imposé comme la vitrine culturelle de l'art contemporain en France. Avec sa bibliothèque, le centre accueille chaque année plus de 5 millions de visiteurs, ce qui en fait le deuxième musée le plus visité de l'Hexagone, juste derrière le Louvre. On y vient pour voir une expo, consulter un livre, rejoindre un atelier d'art ou encore déjeuner, flâner sur son parvis, y écouter de la musique. On y croise tous les publics, étudiants, passionnés d'art, curieux, touristes. Pourtant, le projet d'un centre culturel et polyvalent d'un genre nouveau, regroupant un musée d'art contemporain, une bibliothèque, un centre de création industrielle et une cinémathèque, n'a pas suscité l'enthousiasme naturel qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien au contraire, il a été le projet de toutes les controverses, celui de toutes les polémiques. Tout le monde avait alors, pour une raison ou une autre, un reproche à faire à celui qu'on qualifiait de monstre urbain avec ses tuyaux géants de toutes les couleurs, notamment. Et puis c'était un projet d'un genre nouveau, celui d'un mécénat présidentiel, sous la houlette de Georges Pompidou, combatif de bout en bout sur ce dossier, car passionné d'art contemporain, un homme beaucoup plus moderne et branché que l'image bourgeoise et conservatrice qu'il renvoyait. Beaubourg était-il trop en avance sur son temps? Pourquoi le projet a-t-il tant gêné? En deuxième partie d'émission, nous recevrons notre consoeur Sylvie Vincent Don, spécialiste des questions urbaines et culturelles pour le journal Libération, notre partenaire. Nous entendrons également le reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu sur le parvis du centre Beaubourg à la rencontre des passants, du public et des publics, bref, ambiance. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Lucas Vaillant.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
À la fin des années 60, Paris est déjà une capitale riche dans le domaine de l'art contemporain. Elle regorge d'immenses collections publiques stockées dans les réserves de ses musées. Oui, mais cela fait presque une décennie que la ville n'est plus sous le feu des projecteurs. Détrônée par Berlin, Londres ou New York, où on sait recevoir, exposer et mettre en valeur l'art contemporain, grâce à des structures modernes capables de les accueillir. De nouvelles dynamiques artistiques et contemporaines se créent sur des scènes où l'émulsion se concentre, des scènes malheureusement de plus en plus éloignées de Paris. Sous l'impulsion de mai 1968, on considère que l'art ne doit pas être cantonné dans des musées fermés à l'accès limité. Il doit au contraire être accessible à tous, dans des espaces et des temps nouveaux, et Paris en a besoin. Tel un ovni, on va alors penser à un bâtiment capable de prendre en charge toutes les formes de la création contemporaine. Un bâtiment à la structure polyvalente, vitrine de la création française et de l'expression dans toutes ses formes artistiques. Une manière nouvelle de penser la décentralisation culturelle et le rôle de l'État dans la culture. Un lieu pour ceux qui veulent lire, voir, penser, échanger ou juste se balader, ce sera Beaubourg. En 1969, l'emplacement est choisi. Pour l'instant, ce n'est rien qu'un vaste parking sauvage dans un quartier insalubre connu sous le nom de Plateau Beaubourg. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou est élu à la présidence de la République. Il nomme Jacques Chaban-Delmas à Matignon, un moderne, l'homme de la nouvelle société. Après une décennie gaullienne pendant laquelle le général déléguait entièrement à André Malraux, son ministre, l'ambition nationale culturelle du pays, qui peut donc s'attendre à ce que le nouveau locataire de l'Élysée, ancien professeur de français, de latin et de grec, prenne une initiative pareille? Personne. Mais c'est mal connaître le président Pompidou, amateur d'art, surtout moderne. Témoin de premier ordre de cette initiative présidentielle, son ministre des Affaires culturelles, Edmond Michelet, à qui il écrit en ce début du mois de décembre 1969 pour lui faire part de ses intentions.
Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts plastiques avoisineraient avec la musique, le cinéma, les livres et la recherche audiovisuelle. je veux donner aux Français le moyen d'apprécier et d'accéder aux arts en brisant toutes les frontières. Voilà pourquoi il me semble nécessaire de bâtir une nouvelle institution qui puisse répondre à cela.
Le projet est dans les tuyaux. La lettre de Georges Pompidou se transforme vite en requête et en consigne. Par cette missive, c'est la volonté présidentielle qui s'exprime alors. Les fonctionnaires des affaires culturelles vont se mettre à réfléchir à un ensemble monumental lié à l'art dans un cadre novateur et transcendant les genres. Ce projet, c'est l'affaire d'un septennat, l'affaire d'un président qui veut laisser sa marque. Deux jours plus tard, Georges Pompidou prend la décision, en conseil restreint, de mettre en œuvre le projet d'un grand centre culturel et polyvalent à Paris. Sa femme, Claude Pompidou, en conviendra bien plus tard. C'est à ce moment-là, c'est vrai, un peu le fait du prince, mais tant mieux si le fait du prince va dans le bon sens, dit-elle. De cette étape décisive naît un document programmatique base calendaire d'un projet présidentiel audacieux. Le projet d'un septennat, mieux même, le projet d'un mécénat d'État pour une démocratisation de la culture. Avec comme but affiché une renaissance de la politique culturelle. Créer un musée du XXe siècle à Paris, c'est choisir d'abord un emplacement qui le positionne au carrefour des échanges culturels. De ce point de vue, le centre de la capitale semble tout indiqué, voire incontournable. Et comme le président veut faire vite, l'État rachète le seul terrain disponible de la ville de Paris, l'îlot insalubre du plateau Beaubourg. Ce qui entraînera un conflit avec la Bibliothèque nationale de France, qui avait prévu, elle aussi, de s'y installer. Début de l'année 1970, le centre de Paris est en plein chantier avec les travaux de destruction des Halles Baltar. Les riverains du 4e arrondissement sont partagés sur l'idée de construire un tel ensemble culturel en plein Paris. Le choix du plateau Beaubourg étonne, surtout quand la demande sociale pour des logements ou même des parkings est toujours aussi forte. Aussi, avant même que la première pièce ne soit posée, cette opération est-elle considérée par certains comme socialement injuste, quand d'autres, au contraire, la trouvent culturellement indispensable. Petit tour d'opinion parmi les riverains.
C'est trop compliqué pour moi.
Je crois qu'on a besoin d'autre chose que de musées, même du XXe siècle.
C'est un centre culturel qui va être construit quand même.
On démolit tout ça, les maisons qui sont bonnes et puis les autres, ils vont résister là-bas, à la Courneuve, vous comprenez, c'est un corner.
C'est quand même intéressant. Une bibliothèque, ça intéresse tout le monde.
C'est l'instruction pour tout le monde.
Il faut bien un centre culturel, mais c'est très gênant pour le parking. J'espère qu'ils en ont prévu sous l'immeuble.
Les avis sont d'autant plus partagés que dans le climat ambiant post-mai 68, cette intrusion du pouvoir dans la sphère culturelle reste très mal perçue par l'ensemble de ceux qui sont descendus dans la rue un an plus tôt pour réclamer plus de liberté, justement. Dans les cabinets des affaires culturelles, on est plus pragmatique. Ce ne sont pas des préoccupations de logement social et encore moins un parking qui peuvent mettre les bâtons dans les roues de ce projet défini par le président lui-même comme le projet du siècle. Toujours est-il que les fonctionnaires vont jouer carte sur table de façon parfaitement transparente avec les riverains du quartier afin de ne pas éveiller de mouvements de contestation et d'animosité. En août 1970, le gouvernement nomme Robert Bordaz, délégué pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg. Ce dernier va s'attacher à défendre l'idée d'un projet qui, l'affirme-t-il, s'inscrit dans l'intérêt des Parisiens.
On veut créer au cœur de Paris, dans un endroit particulièrement bien choisi, puisque c'est entre les Halles et le Marais, un centre où on est à la fois une représentation des arts plastiques, où l'on ait des salles qui permettent la création de tous les arts, de la musique aussi, et en même temps une bibliothèque de lecture publique accessible à tous, qui permette de s'informer sur l'évolution de la cité contemporaine. C'est un groupement important, c'est un bâtiment qui comportera environ 70 000 m² de surface de plancher, c'est une grande œuvre à laquelle nous serions heureux que le plus grand nombre d'architectes de tout pays veuillent bien montrer leur intérêt en participant à ce concours.
Gagné à concours international, engouement international, des architectes de tous les pays affluent. Pour tous, le cahier des charges est on ne peut plus simple. Créer au travers de leur projet un instrument qui permette de redécouvrir la culture, réinsérer l'art dans la vie et surtout qui soit accessible au plus grand nombre, tel est le cahier des charges. Le 15 janvier 1971, un jury international retient parmi 630 projets l'idée de deux jeunes architectes associés, l'italien Renzo Piano et l'anglais Richard Rogers. Leur idée, c'est d'édifier une immense structure moderne d'acier et de verre, d'une dimension de 50 mètres de haut et de 140 mètres de long, soit pour vous donner une idée, la taille des tours et de la superficie de l'église Notre-Dame. À l'intérieur, fidèle au précepte de Georges Pompidou, on doit y trouver une bibliothèque, un musée d'art contemporain, un centre de création industrielle, un centre de recherche acoustique, une cinémathèque. L'ensemble est concentrique sur un seul bâtiment, à l'inverse par exemple du Lincoln Center de New York où les collections sont dispersées dans plusieurs édifices. L'idée est d'offrir une expérience nouvelle dans la consommation et la pratique culturelle. Fonctionnel et transparent, le cadre de la structure est dynamique. Une machine en mouvement avec son grand escalator en façade qui donne au bâtiment l'image d'une usine-musée, lieu d'apprentissage et de récréation et pensée. C'est une vraie modernité, une proposition audacieuse, transgressive même. Le président du jury, Jean Prouvé, est séduit. Un projet qui pour lui sera le témoin d'une époque.
Ce bâtiment nous apparaît comme marquant une étape dans la construction actuelle. C'était pour nous essentiel. Nous nous sommes trouvés devant 680 projets, approximativement, et nous nous sommes découverts très vite allergiques aux grands gestes architecturaux. La simplicité nous a attirés.
Est-ce que vous pensez que ce bâtiment sera, disons, le témoin de son époque ?
Oui. Oui, nous espérons. D'ailleurs, nous avons découvert une chose en connaissant les auteurs et en les voyant surtout, c'est qu'ils sont jeunes. Et ça, c'est important. Ça nous a beaucoup plu.
Effectivement, les deux architectes lauréats sont assez jeunes. Piano a 34 ans et Rogers, 37. Problème aux yeux de beaucoup de Français à l'époque, ils sont étrangers. L'un est italien et l'autre britannique. Et si aujourd'hui cet aspect peut nous sembler insignifiant, heureusement, tant nos architectes d'ailleurs construisent à l'étranger, tant de grands architectes étrangers construisent en France, c'est à l'époque source de vives polémiques. Pour certains, le goût architectural français n'est pas du goût du président. Pour d'autres, c'est le génie de conception et d'ingénierie à la française qu'on remet en cause en important une solution qui vient de l'extérieur. On demande alors à voir le fameux projet. Dans les semaines qui suivent, face aux attentes et polémiques suscitées par le projet lauréat, on décide d'exposer au Grand Palais la maquette du bâtiment. Les visiteurs sont nombreux, ils se questionnent encore plus. Le projet doit s'élever dans un quartier populaire de Paris, autour de maisons le plus souvent vétustes, parfois vénérables, bordées par des ruelles et des passages. Un panorama typique et traditionnel du vieux Paris. Et puis un bâtiment aussi moderne ne risque-t-il pas de défigurer un quartier ? Soumis à l'appréciation du public, le futur centre Beaubourg suscite bien des commentaires.
Moi, je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle.
Cette construction est d'une telle échelle que, comme dans l'ancien temps où ces cathédrales surgissaient entourées de petites maisons, et elles en étaient d'autant plus saisissantes, je suis persuadé que ce bâtiment sera une nouvelle, la cathédrale de notre temps.
Ça n'aura jamais le souffle de ce qu'aurait pu faire un grand architecte comme Wright, qui a fait le Guggenheim à New York.
C'est une boîte, une prison. On fera des expériences comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques.
C'est quelque chose qui va fonctionner. Mais est-ce aussi quelque chose où l'émotion sera respectée ?
J'entends pas d'avance la cinquième de Beethoven là-dedans ou le sacre du printemps.
Ça me déçoit.
Peut-être des jeux de lumière vont animer tout ça. Il
y aura des grandes surfaces translucides et qui permettront justement d'avoir la transparence.
Vraiment, c'est le démarrage, je crois, d'une époque.
C'est trop compliqué pour moi.
Critiquer ce projet est devenu un sport national. C'est vrai qu'il est déroutant. Pour la première fois dans une construction, l'intérieur est à l'extérieur. Cet étonnant concept, tiré de la vision de l'architecte Rogers, consiste à rejeter hors du bâtiment la plupart des réseaux dits techniques, autrement dit les escaliers, les conduites d'eau, de chauffage, des ascenseurs, tout ça pour ne pas obstruer la circulation à l'intérieur. Le résultat est étonnant. Ils mettent à disposition pour les événements organisés d'immenses plateaux d'exposition modulables et une immense bibliothèque. Pour son autre concepteur, l'italien Renzo Piano, il s'agit d'un projet ouvert au temps et qui a l'intérêt de pouvoir évoluer en fonction des besoins.
La première chose qu'on a cherché de faire, c'était de faire justement
plus qu'un bâtiment, un système, vous savez, quelque chose de très libre, de se rénover, de se changer avec les situations, avec le temps. Comme ça, ce bâtiment, c'est exactement, peut-être, au moins, c'est, dans l'intention, c'est exactement le contraire d'un monument.
La volonté de l'équipe dirigeante du projet ne s'arrête pas à l'édifice lui-même. Le centre culturel Beaubourg doit, selon ses concepteurs, attirer du monde et permettre de développer une vie artistique, librairie, atelier, magasin, autour du bâtiment, et ainsi rénover un quartier devenu au fil des années de plus en plus insalubre. Et malgré les vociférations des uns et les critiques des autres, au printemps 1972, après quelques adaptations, le chantier du musée du siècle commence dans un nuage de poussière et des montagnes de gravier en plein centre de Paris. Sur le plateau Beaubourg, les véhicules des particuliers sont remplacés par des outils de chantier. Celui qui démarre doit durer selon les estimations un peu plus de 3 ans et s'achever en 1975, avant la fin du mandat du président Pompidou. Rappelons que ce président est mort dans l'exercice de ses fonctions en avril 1974, mais que son septennat devait courir jusqu'à 1975. Le coût des travaux est de 900 millions de francs, ce qui fait aujourd'hui 130 millions d'euros, soit un peu plus que le prix de 2 avions Concorde, soit encore un tiers du prix que l'État dépensera 30 ans plus tard pour l'édification du musée du Quai Branly, un projet à 400 millions d'euros. Délégué par le gouvernement à la gestion des travaux du nouveau centre culturel, Robert Bordaz est nommé président de l'établissement public du centre Beaubourg. Face aux journalistes qui se pressent devant les barricades de bois pour tenter d'apercevoir les premières fondations, il répond aux questions sur l'implantation du futur centre.
Son originalité est grande. On aurait pu concevoir un grand geste architectural, mais cela se serait probablement difficilement marié au quartier, qui est un quartier ancien composé de petites maisons qui ont d'ailleurs un grand charme. Le bâtiment tel qu'il a été adopté est un bâtiment dont la façade sera très mouvementée. On verra sa structure et ainsi on n'aura pas l'impression de quelque chose qui jure avec le quartier. Et puis, grâce à la combinaison adoptée par les architectes, la moitié de la place est libre, cette place sera piétonnière, ça sera donc un bâtiment extrêmement ouvert, on entrera dans le bâtiment par toute la façade, on aura quelque chose de très ouvert au public et à la jeunesse, je l'espère.
Pensé pour être un bâtiment qui doit vivre grâce à la participation du public, le centre Beaubourg se veut, selon ses concepteurs, un bâtiment moderne. une modernité qui a du mal à passer parmi la population et dans la presse, où de nombreux journalistes n'hésitent pas à parler d'une usine à gaz et qui, bien sûr, s'apprête à défigurer le vieux Paris. L'argument a beau être éculé, on le ressort sans cesse face à la modernité, c'est connu. À l'Élysée, Georges Pompidou, grand mécène de ce projet d'État qui est son projet, le legs d'un septennat, défend l'idée selon laquelle l'originalité du centre Beaubourg, c'est son identité visuelle. Les arts, les livres, la musique, le cinéma, Beaubourg n'est pas un musée. Il est plusieurs musées en un, avec un grand espace pour le Musée national d'art moderne, une bibliothèque publique d'information, la fameuse BPI, un centre de création industrielle et même un institut de recherche et de coordination acoustique-musique. Au mois d'octobre 1972, quelques mois après le début des travaux, le président de la République accorde un grand entretien au journaliste du quotidien Le Monde, dans lequel il revient sur la controverse.
Pour ce concours, nous avons eu recours à un jury composé d'architectes et d'utilisateurs universellement connus. Nous nous sommes inclinés devant leur choix. Le jury, qui, je pense, a pu être influencé par l'agitation créée à l'époque autour des pavillons Baltard, a rejeté tout projet qui prétendait être par lui-même un monument. Par contagion, entre Beaubourg et les Halles, se créera, je l'espère, un quartier à dominante artistique et culturelle. Le problème dans un projet de ce genre, c'est de le réaliser, bien sûr, mais c'est surtout qu'il vive. Tout cela coûte cher, je le dis franchement. Mais sur plusieurs années, c'est finalement une goutte d'eau dans le budget de l'État. Et si l'objectif est atteint, ce sera une réussite sans précédent. Mes raisons, j'aime l'art, j'aime Paris, j'aime la France. Je suis frappé par le conservatisme du goût français, particulièrement de ce qu'on appelle l'élite. Je suis scandalisé de la politique des pouvoirs publics en matière d'art. Et c'est pourquoi je cherche à réagir.
En 1974, dans les semaines qui suivent la mort du président Pompidou, un autre front s'ouvre par la Société des Amis du Musée d'Art Moderne, Palais de Tokyo, suivi par des collectionneurs, des artistes et des donateurs, lesquels refusent le transfert des œuvres au centre Beaubourg. Les galéristes considèrent alors le centre comme un monstre d'urbanité incapable de respecter l'art. Le 3 janvier 1975, on fait voter une loi pour créer et protéger l'établissement public du centre Beaubourg. Une loi par laquelle on entend confirmer les missions du centre, favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit, contribuer à l'enrichissement du patrimoine culturel de la nation, favoriser l'information et la formation du public, ainsi que la diffusion de la création artistique et de la communication sociale. Rien que ça. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'Élysée a changé de locataire. Et Valéry Giscard d'Estaing ne semble pas partager la même passion que son prédécesseur. Pour lui, le projet est même un gouffre financier dont l'avenir, trop incertain, justifie de l'interrompre. Il va alors trouver sur son chemin son propre premier ministre, pompidolien, de la première heure. Alors qu'on achève les travaux de gros œuvres de l'édifice, Jacques Chirac, il s'agit de lui, choisit délibérément son camp. Il se rend sur place, accompagné de Madame Pompidou, pour témoigner de son soutien au projet Beaubourg. Au micro des journalistes, le Premier ministre se félicite du résultat.
N'imaginez pas que le résultat puisse être aussi positif. Je trouve que sur le plan architectural, ce sera très certainement l'une des grandes choses de Paris pour les années, même probablement pour longtemps maintenant. Je crois également que sur le plan de la conception de l'œuvre d'ensemble, cela permettra à la France, qui avait pris, contrairement à son histoire, un certain retard dans le domaine des arts, de la création, de retrouver cette place qui doit être la sienne. En bref, je crois que c'est vraiment un geste essentiel qui marquera profondément l'histoire du XXe siècle pour la France et je m'en réjouis beaucoup.
Mais le centre Beaubourg ne fera pas l'économie de l'autre polémique autour du coût. C'est la secrétaire d'État à la Culture, Françoise Giroud, qui met le feu aux poudres. Selon ses estimations, le budget de fonctionnement du centre Beaubourg doit s'élever à près de 130 millions de francs par an, soit autant que le budget de la préfecture de police de Paris. Des députés UDR, comme Émeric Simon-Laurière, essaient alors d'éteindre le feu. Non, le centre culturel Beaubourg ne sera pas un nouveau trou des Halles. Ce à quoi des députés de l'opposition lui répondent « Enfin, réveillez-vous, le trou est déjà là, de Beaubourg jusqu'aux Halles, il arrive maintenant jusque sous vos propres pieds ». Mais ces soubresauts ne viennent pas perturber la suite des travaux sur le plateau Beaubourg qui commence à prendre forme et laisser deviner ses formes définitives. Le 31 janvier 1977, le Centre national d'art et de culture, dit Centre Pompidou-Beaubourg, est inauguré en grande pompe par le président Valéry Giscard d'Estaing. Quelques jours plus tard, le 2 février, il ouvre enfin ses portes au public. Paradoxe du temps, ceux qui hier ont jeté sur lui l'opprobre et le scandale vont devenir ceux qui le fréquenteront demain et quelquefois ceux qui le défendront. La polémique autour de cette raffinerie culturelle qui défigure le vieux Paris va cependant durer encore un peu, liée en grande partie à son architecture si singulière. Tout ce qui est d'habitude caché par la structure, comme les canalisations, les escalators, est désormais visible de l'extérieur. Cela ne manque pas d'intriguer les curieux qui pensent alors, pour certains, que le bâtiment n'est pas encore fini. Et puis qu'est-ce que c'est que ces grands tuyaux partout, là, de toutes les couleurs ? Ceux qui s'indignent ont juste oublié que l'art est une proposition et qu'il n'a pas vocation à satisfaire tout le monde pour les mêmes raisons. L'art doit déranger, il dérange, là, en l'occurrence, et c'est tant mieux. Et au bout du compte, le succès, oui, un succès considérable. Le Centre Beaubourg, fidèle à ses promesses, attire des publics venus de tous les horizons, des jeunes, des moins jeunes, des touristes, des amateurs d'art, des néophytes, des gens qui viennent sans trop savoir. C'est un aimant culturel, une vitrine de l'art contemporain à la française. Oui, c'est ça, le Centre Beaubourg. En tout, ils sont 225 000 à pousser ses portes chaque jour, près de 5 millions chaque année, soit près de 5 fois plus que ce qu'on avait estimé à l'époque. En son antre se déroulent parmi les plus grandes expositions d'art moderne et d'art contemporain au monde, de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie. Les plus grands noms, tels Dali, Calder, Duchamp, Knet, Cartier-Bresson, sont exposés dans ces espaces pensés des années plus tôt pour pouvoir les accueillir. Le pari audacieux lancé par Georges Pompidou, celui de désacraliser le musée de son carcan et de son cadre traditionnel en lui offrant une structure résolument moderne et ouverte et gagnée.
Il y avait un jardin métallique peuplé de sapins cylindriques avec des robes Paco Rabanne. Il y avait des cochons pop musique et des insectes fantastiques aux couleurs idoines. Il y avait des sentiers hollandais que seule la lune éclairait à 5 heures de l'après-midi. J'y venais à pied prendre le thé servi par toute une armée de joyeux colibris, et c'était beau comme un rêve, c'était beau à mourir, c'était jardin métallique, surtout dans les journées d'été. Et c'est comme si l'on était secoué par un géant de 17 pieds, particulièrement colérique. Et c'était invisible aux nerfs optiques.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire du Centre Beaubourg, ou Centre Georges Pompidou, avec notre invité Sylvie Vincendon. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste au service culturel, question d'urbanisme, on va dire question d'urbanisme plutôt. Hein.
Oui, mais voilà. Enfin, j'ai un peu viré vers l'économie, excusez-moi.
L'économie, bon, bah, écoutez, en tout cas au journal Libération, c'est le principal.
Oui, ça c'est sûr.
Libération qui est notre partenaire une fois tous les 15 jours. Alors, Sylvie, on l'a vu dans ce récit, le Centre Pompidou a longtemps été décrié par les riverains, par les politiques et les conservateurs de tout poil. Aujourd'hui, alors qu'on fête ses 40 ans, il est le symbole, c'est clair, hein, d'une réussite. Je rappelle que le musée rassemble plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, qu'il est dans le top 3 des lieux les plus visités par les touristes qui viennent à Paris. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce succès? On reviendra sur la polémique après, et finalement sur le décalage hein, entre la polémique de l'époque et le succès d'aujourd'hui.
Qui est un grand classique que nous avions déjà vu ensemble sur la pyramide du Louvre.
C'est vrai.
Donc on peut retrouver ça quand même dans beaucoup d'endroits de ce
genre.
Mais
il est antérieur celui-là donc.
Oui, celui-là est antérieur. Comme quoi c'est une habitude qui se garde en France. Là en l'occurrence, ce qui est frappant, c'est à quel point le bâtiment a fait sa preuve par l'usage. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, si on prend le Parvis, qui est quand même un endroit où il se passe quand même toujours des choses, où il y a des gens, où les gens traînent d'une certaine façon. On regarde ce qui se passe sur le Parvis de la Bibliothèque de France. Il a jamais réussi à faire cette preuve-là. Donc, il y a véritablement une adoption par l'usage des gens. Et je pense que cette adoption tient beaucoup au fait que c'est un endroit qui, socialement, est extrêmement mixte. Comme on peut y aller pour différentes raisons, à la fois pour la bibliothèque, pour regarder la presse internationale, pour regarder la télé, pour faire des formations. Il y a des tas d'ateliers dans Pompidou. Il y a des petites expositions. Il y en a des plus grandes. Et si on regarde ce qui se passe en ce moment, où on a une exposition sur la gaffe. Donc il y a des choses qui sont quand même des thèmes abordables. Et on voit bien que physiquement, quoi, quand on regarde la foule qui est à l'intérieur, les gens sont vraiment variés. C'est un lieu de mixité. J'ai tendance à dire que ça fonctionne un peu comme une gare, mais la culture en plus, quoi. Ce qui est quand même pas rien.
C'est une agora aussi.
Oui, c'est ça. C'est une agora, mais devant, évidemment, mais aussi dedans. Parce que quand on rentre dans cette espèce de rez-de-chaussée qui est très ouvert, il y a un côté place de village. On peut se poser là, se dire qu'est-ce que je vais voir. Il y a véritablement, c'est un lieu très accueillant, véritablement.
Alors ce qui est saisissant, c'est que si on regarde Paris de haut, je ne sais pas sur quel immeuble, quel monument, on voit ce kaléidoscope de couleurs. Mmh. Hein, et c'est formidable. Parce que
oui, il dépasse juste un petit peu.
Voilà, mais il y a, bah tiens, justement sur la terrasse des anciens locaux de Libération, hein, ouais. Rue Béranger, par exemple, on voit Paris de haut, et puis on voit ce petit cube avec plein de couleurs, et il y a que ça, autant de couleurs, finalement, dans le centre de Paris, donc il y a aussi dans cette réalisation architecturale, il y a cette vision de ces couleurs, de ces tuyaux. Est-ce que ça fait partie des réalisations qui vous touchent dans Beaubourg, cet aspect-là?
Ce qui est touchant, c'est qu'effectivement, surtout aujourd'hui, on a tendance à être dans une époque un peu conservatrice, un peu nostalgique, et y compris à mauvais escient. Dans l'attitude qu'ont eu Piano et Rogers, Piano en parle aujourd'hui. Moi, je l'ai interviewé pour le palais de justice de Paris, qu'il est en train de construire. Et il disait, à l'époque, nous, on est vraiment post-68. On est jeune et on fait un acte de rébellion quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une provocation. Ils cassent les codes, mais pas gratuitement. Hein. Ils ont une vraie raison technologique de mettre toutes ces circulations à l'extérieur et de dégager le plus d'espace d'exposition à l'intérieur du bâtiment. Tout ça est tout à fait cohérent, logique, et ils poussent le jeu jusqu'au bout. Puisque la tripaille est apparente, au moins que chaque couleur soit la couleur d'une fonction. Donc, c'est pas bleu, rouge, vert par hasard. Mmh. C'est bleu, rouge, vert, jaune parce que c'est une fonction différente à chaque fois dans le tuyau qui ne trimballe pas la même chose de l'air, du chauffage, de l'eau, de l'ascenseur, du déplacement, etc. Et du coup, il y avait un côté très révolté d'une certaine façon, mais pas du tout de manière gratuite. Tout est très pensé déjà chez eux. Ils ont à peine la trentaine, hein, quand même.
Alors, tout est pensé plus ou moins bien, d'ailleurs, puisque dans le projet, il y avait aussi faire en sorte que le quartier tout autour puissent
en
bénéficier.
Ah, mais ils n'avaient pas la maîtrise de tout.
Voilà, alors ça n'a pas fonctionné.
Non, ça n'a pas fonctionné pour des raisons qui sont... c'est très, très difficile de maîtriser le commerce, à vrai dire. Et à partir du moment où vous avez beaucoup de monde, il y a eu une grosse demande pour ces fonds de commerce pour faire des commerces qui font beaucoup de chiffres. Et pour ça, il ne faut pas que ces commerces ils soient ni des galeries, ni des choses assez haut de gamme. Et au début, il y avait une grosse, grosse intention culturelle. Et puis après, le naturel a repris le dessus. Donc, le quartier des Halles, c'est de la fripe, de la fringue, des choses pas chères, de consommation très grand public. C'est le mass market hein, autour de Beaubourg. Mais c'est pas grave. Le centre, il existe quand même dans sa vie culturelle, dans son mélange social, des gens qui viennent pour des choses assez pointues, d'autres moins. Et au fond, tout ça, ça fait du brassage. Moi, ça me choque pas plus que ça.
Alors, on peut faire un état des lieux. 40 ans après, c'est tout à fait légitime, surtout avec vous, puisque vous avez l'œil avisé sur toutes ces choses, votre spécialité. La réussite de Beaubourg, je crois que vous venez de la dire, hein, c'est ce côté brassage, quand vous dites c'est comme une gare, mais avec la culture en plus. Bon, voilà, on sent que le jugement est positif, mais est-ce qu'il y a des choses ratées, selon vous? Alors, il y a le quartier, bon voilà, ça n'a pas fonctionné, parce que, effectivement, quand on le commerce,
En même
dur.
Temps, quand on dit ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas des rideaux de fer baissés tous les trois commerces. Hein. Tout fonctionne au sens où c'est vivant, ça marche, il y a de l'activité et certainement beaucoup de chiffre d'affaires. Mais dans le bâtiment lui-même, ce qui est frappant, c'est à quel point il est agréable à l'intérieur. C'est-à-dire que, bien que les dimensions soient complètement monumentales, on n'a jamais l'impression d'être oppressé là-dedans. Alors, à quoi ça tient? Je pense aussi que ça tient au fait que les échelles sont assez diverses, parce qu'il y a des endroits qui sont plus intime, d'autres pas. En particulier, la bibliothèque a été quand même très bien traitée. Elle a été refaite d'ailleurs de fond en comble. Et je pense que il y a eu le seul problème qu'a eu véritablement le Centre Pompidou, c'est son succès. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 ans, on l'a refait, on l'a fermé pendant quelques mois et on l'a refait de fond en comble, mais parce qu'il était simplement usé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde...
Victime de son succès, c'est
mais
ça?
Oui, que tout s'use, les planchers, les bien circulations, l'escalator extérieur. Ça a l'air bête à dire, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, même si les gens ne sont pas du tout vandales ou s'ils se comportent pas mal du tout, mais simplement parce qu'ils sont nombreux, ça use et on a... Ça, on ne l'avait pas vu venir, quoi, vraiment, à ce point-là.
C'est vrai. Alors, on va revenir sur cette histoire et insister sur le rôle de Georges Pompidou.
Ouais.
Je disais en intro que cet homme était un vrai moderne, bien branché, contrairement à l'image un peu pateline de bourgeois conservateur qu'il pouvait renvoyer. Bon, son rôle est absolument monumental, c'est le cas de le dire.
Ouais, c'est un curieux moderne, Pompidou, parce que d'un côté, c'est le couple qui était effectivement,
couple, oui.
Avec un goût de l'art, ils ont quand même légué à Cajar 2000 habitants un centre d'art contemporain. Donc c'est quand même, bon, il n'est pas très grand, mais c'est quand même ça. Et là, ils avaient vraiment ce goût-là. Et en même temps, chez Pompidou, c'est ambigu le rapport à la modernité. Parce que d'un côté, il fait faire les salons de l'Élysée par Paulin. Il aime Vasarely, il aime vraiment l'art de son temps. D'un autre côté, il fait la voie express rive droite. Il impulse une espèce d'urbanisme qu'on voit dans le front de Seine en face de chez vous, avec des tours de l'urbanisme sur dalle, qui n'est pas ce qu'il nous a laissé de mieux. Et puis d'un autre côté, il réunit...
Il est le président des années de croissance également, des années où il n'y a pas ce souci pourtant légitime de l'environnement. Enfin, ça commence à peine. On n'est pas là-dedans. On est consommer, rouler. Il l'avait dit d'ailleurs. La bagnole et les Français, c'est un. Oui. Il avait dit ça. Hein, cette
non
phrase,
seulement
là.
Il l'avait dit, mais il l'a fait dans Paris.
Donc alors, il est aussi président.
Excusez-moi.
Il est aussi le président d'une époque, de son époque et celle
absolument.
De la consommation.
Puis il ne faut pas oublier qu'au moment où il pose Beaubourg sur le plateau Beaubourg, Paris est dirigé par le préfet. Paris est en fait gouverné
PLM,
par l'État.
Absolument.
Il n'a pas de maire. Donc, d'une certaine façon, l'État est maître chez lui dans cet endroit. Mais en plus de ça, il réunit un très 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 bon jury pour le Centre Pompidou. Quand on entend 600 dossiers, vous imaginez pas ça aujourd'hui, quoi. Les derniers ont été les grands travaux de Mitterrand, mais on ne fait plus ça. Donc, la terre entière arrive. Et le jury est présidé par Prouvé, qui était un très très grand ingénieur. ingénieur, et il fait ce choix de ce bâtiment-là que Pompidou n'aimait pas. Mais il avait dit, nous respecterons le jury. Et dans la mémoire collective des architectes, ce moment est toujours un moment béni parce que ça ne se reproduit plus aujourd'hui. Autrement dit, quand les jurys font des choix, en fait, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, peut décider que lui, il fait un autre choix. Mmh. Et c'est très, très fréquent. Donc, le jury de Beaubourg, le jury de Pompidou, et le choix qui a été fait comme ça est respecté par, finalement, un commanditaire qui, lui, aurait peut-être aimé quelque chose de différent.
D'aussi moderne, mais différent peut-être.
Très différent, probablement, oui. Et c'est quand même très respectable.
Est-ce que Pompidou a agi uniquement pour l'art ou avec l'ambition de légitimer la place de l'État dans la sphère culturelle d'un pays? Est-ce qu'il y avait cette volonté-là?
Oui, je pense qu'il y avait cette volonté-là. On le voit d'autant plus avec l'attitude de Giscard juste derrière, qui effectivement a du mal à chausser ce genre. Bon, il a sauvé quand même la gare d'Orsay, faut le reconnaître. Mais oui. Enfin, très patrimoine, très plus destin que Giscard. Voilà, et donc c'est une autre attitude.
Bon, on va aller prendre la température et l'ambiance un jour comme un autre à Beaubourg auprès des touristes qui viennent le visiter grâce au reportage d'Annel Verzo. Et on se retrouve, Sybille Vincendon, juste après, bien sûr.
Je viens d'arriver juste devant le centre Georges Pompidou, ou le centre Beaubourg, à Paris, dans le 4e arrondissement. Et je vois un grand bâtiment avec des tuyaux. Et je vois qu'il y a une exposition actuellement de Marcel Duchamp. Et alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au centre de la place, il y a des toilettes. Et il y a même une jeune femme qui s'est installée sur ces toilettes. Elle est habillée. Il y a une poubelle, des rouleaux de papier toilette, et elle a posé son sac à dos. Tout le monde la prend en photo. Bonjour. Elle est en vitrine. Bonjour mademoiselle, vous êtes aux toilettes?
Oui, je suis en toilette.
Mais vous êtes bien, vous êtes en public, hein, quand
même. Je suis fortunée parce que j'ai la toilette.
Vous avez gardé vos vêtements?
Oui.
On va faire l'expérience, hop, je rentre dans les toilettes. Voilà, et... Oui, c'est des vraies toilettes. Hein. Il y a une chasse d'eau. Et là, tout autour de moi, il y a des gens qui passent, des touristes. J'ai l'impression d'être dans une œuvre d'art.
C'est pour les SDF. Oh, c'est vrai.
Est-ce que vous savez que demain, c'est la journée mondiale des toilettes?
Ah, c'est pour ça que je me demande.
Journée mondiale pour ça?
Chaque jour, 2000 enfants meurent de diarrhée liée au manque d'accès aux toilettes.
Et donc pourquoi vous êtes mis juste devant le centre Beaubourg?
On s'est dit pourquoi pas produire une œuvre d'art qui ne serait pas une œuvre d'art et la mettre devant le centre Georges Pompidou. Donc ça tombe très bien parce qu'en fait il y a une exposition de Marcel Duchamp en ce moment. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui passent nous voir et qui nous disent « Ah mais c'est un hommage à l'urinoir, c'est un hommage à Marcel Duchamp ». Donc on dit « Bah non, non, pas du tout, en fait c'est une action de sensibilisation ». Et en fait c'est une très bonne accroche pour les gens.
C'est chaud, hein.
Là on va juste voir la fontaine Nikita Saint-Phal et après on retourne à l'école.
Voilà, là on est en train de longer le centre Beaubourg et on est donc avec cette classe. Vous êtes de quel institut?
L'institut Gustave Baguerre.
Une école spécialisée pour le langage.
Il y a une adaptation pour les sourds et une adaptation pour tout ce qui est dyslexique.
Est-ce que vous avez des problèmes d'élocution?
Oui.
De langage.
Ça nous aide à...
C'est mélangé.
Faire notre vie plus tard.
Ne pas dire autre chose que j'ai pas dit.
Et vous avez quel âge?
14 ans.
13.
12.
Alors là, voilà, on arrive devant cette fontaine Stravinsky, appelée aussi la fontaine des automates. Et cette fontaine, elle a été construite en 1983. Et ce sont des œuvres de Tinguely, Jean Tinguely et Nikita Saint-Phal. Qu'est-ce que tu vois?
Des têtes de mort, des chauves-souris dans l'eau, des serpents.
Qu'est-ce qu'elle fait, la tête de mort?
Elle tourne.
Et elle est posée sur...
Sur un sac tout en fer. Elle est blanche.
Et elle sourit, non, la tête de mort?
Oui, elle sourit. Elle a un œil bleu et un œil vert et bleu.
Laquelle te marque le plus?
Le chapeau qui est là-bas. Avec une petite fleur sur le chapeau. Elle est rouge, jaune, orange.
Qu'est-ce que tu vois d'autre sur l'eau?
Bah un cœur rouge, vert, bleu, orange. Il tourne.
Il tourne sur lui-même.
Oui.
Toutes les sculptures tournent, hein.
À part l'éléphant.
Et là, juste en face de nous, il y a une église.
C'est l'église où que Molière a été baptisé.
Est-ce que vous entendez le son de la fontaine?
Oui, les bruits de la machine.
On s'approche pour écouter?
Oui.
On entend la mécanique des machines.
Mais surtout, là, c'est plus bruyant que l'autre côté.
Et là, il y a une grosse dame. Regarde, dans l'eau.
Ah oui, les cheveux bizarres. Des traits oranges.
Pour la sirène?
Bah oui, un corps vert,
violet, blanc et rose.
Il y a toutes les couleurs.
Est-ce qu'elle est belle?
Pas trop,
non,
pas trop.
Non.
Pourquoi elle est pas belle?
Parce qu'elle est grosse.
Mais c'est une œuvre d'art.
Oui, mais moi je trouve pas ça beau en tout cas. Je
voudrais pas sortir avec elle.
Non,
en même temps, c'est une femme qui l'a fait, donc.
Niquez-vous,
laquelle te plaît le mieux?
Ah, la note de musique et le crâne.
Et moi, c'est le cœur, parce qu'il est pour tout le monde, il tourne pour tout le monde.
Allez, on y va. Attends, je t'ai entendu. Allez, on y va.
Allô, ça va?
On y va.
Ça
on y
va,
va
oui.
Attends,
merci beaucoup, hein. Merci. Au revoir.
Voilà, ce qui ressort de ce reportage, c'est donc et par définition la réalité, c'est-à-dire la bonne humeur. Il y a des endroits comme ça où les gens sont de bonne humeur. Quand vous passez devant un Beaubourg, bah, tout le monde est de bonne humeur, surtout parce qu'il y a des touristes en principe. Quand on prend un week-end, c'est pour passer du bon temps. Mais même les Parisiens, il y a de la bonne humeur là-dedans. Et quand je dis là-dedans, je dis aussi dehors, Sybille Vincendon, parce que c'est très poreux tout ça finalement, entre le dedans et le dehors.
Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est un bâtiment qui, a priori, avait tout pour être une espèce de soucoupe volante posée dans le Paris haussmannien et qui a atterri dedans, mais avec un naturel confondant.
Oui,
alors,
vrai.
Quand vous êtes rue du Renard, bah, vous marchez effectivement le long d'une façade assez étrange avec des gros tuyaux et puis de temps en temps, vous apercevez les gens qui sont dans la bibliothèque. Mais ça ne fait absolument pas cet effet qu'on peut avoir dans des quartiers de dalles, par exemple, où on ne sait pas où est l'entrée des bâtiments, ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, quand il y a un rapport entre dedans et dehors. Alors, je me souviens que quand le cinéaste Gaudry avait fait des ateliers de scénario, alors c'était une exposition assez particulière, où les gens se constituaient en groupe, mais dans l'ordre d'arrivée, hein. Et les groupes faisaient un film en quoi, 3 heures, quelque chose comme ça. Donc, on allait d'une pièce à une autre pour faire le scénario, faire l'histoire, les personnages, le costume et puis le tournage. Et tout ça se passait derrière la vitre de Beaubourg, mais la vitre de rez-de-chaussée. C'est-à-dire que de l'autre côté de la vitre, il y avait les gens qui passaient, qui regardaient ça. Il y avait une espèce de porosité entre le dedans et le dehors, outre le fait que l'expo elle-même était quand même quelque chose d'assez particulier. Et je vois pas où ailleurs on peut faire des trucs pareils.
Et bien justement, quand vous dites trucs pareils, ça nous renvoie peut-être à une époque où on faisait plein de trucs pareils, qui étaient formidables, qui étaient la fin des années 60. Et d'ailleurs, ça correspond avec l'élection de Georges Moïdou, qui était élu en 1969. Ouais. Est-ce qu'il est, quand il décide de se lancer dans ce projet-là et de le mener jusqu'au bout, plus ou moins influencé par l'air du temps qui est le sien, qui est celui de son élection, qui est celui de post-68, où on va faire un truc, où on va casser les barrières, est-ce qu'il y a de ça?
Probablement, puisque si on regarde la polyvalence du programme qu'il y a dans Pompidou, qui est un programme d'expo d'art, d'atelier, de la bibliothèque, bien sûr, du cinéma, tout le centre aussi de création industrielle qui rentrait au musée, c'est-à-dire que tous ces objets rentraient au musée quand même un peu pour la première fois, en tout cas en France, le programme a été respecté et c'est toujours celui-là. Donc, il devait bien tenir la route quand même pour être encore d'actualité. Ils n'ont pas lâché beaucoup de choses au fil des années, Pompidou. Vraiment, ils font ce qu'ils faisaient dès le début et ils ont rajouté des choses, à vrai dire.
Alors, comment expliquer que la genèse a été si difficile, qu'il y ait eu comme ça ces polémiques. Alors oui, vous me direz, il y a toujours dans un pays des conservateurs, il y a ceux qui ne veulent pas bouger les choses parce qu'ils ont peur du risque que ça représente, puis il y a ceux qui considèrent que le vrai risque, c'est de rien faire, justement, c'est de ne pas avancer.
Oui, mais je pense que c'est un pays qui avait été bien secoué quand même, hein. Il ne faut pas oublier ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on passait d'une France dans laquelle, effectivement, très, très corsetée, on a fait mai 68, et donc on était quand même dans la foulée de ça, et que je pense que si un politique n'était pas complètement borné, il entendait ça. Et probablement, Pompidou a eu moins de mal à l'entendre, aussi avec son côté moderniste économique, hein, véritablement, que ne l'avaient peut-être le général et Yvonne. Voilà.
Le centre Beaubourg a-t-il aujourd'hui encore ses détracteurs? Est-ce qu'il y a un débat, ou est-ce que le débat que nous avons retranscrit dans en récit, finalement, il existe encore aujourd'hui, ou est-ce que l'affaire est classée, quoi?
Non, l'affaire est classée. Je pense que les Parisiens, en tout cas, sont très attachés à cet endroit. Il est attachant, hein, d'une certaine manière.
Ah bah oui, on n'arrête pas de le dire. Hein, c'est ce qu'on dit depuis.
Je pense que c'est la bibliothèque qui a eu du mal à trouver. À créer ce genre d'attachement, alors que ce qui est paradoxal, c'est que l'étage grand public de la bibliothèque, vous avez à peu près tous les étudiants de Paris qui viennent là, donc c'est très ouvert, et pourtant ça crée pas cet attachement émotionnel, un peu affectif.
Et pourquoi?
Peut-être parce que l'endroit n'est pas assez accueillant.
Vous pensez qu'un grand projet ambitieux comme Beaubourg, avec cette modernité, peut-être ce superbe défaut qui est celui de voir les choses avant les autres, d'avoir raison avant les autres, soit de nouveau envisageable aujourd'hui à Paris, où on a l'impression que la prudence est devenue quelque chose qui nous guide plus que l'audace?
Je ne veux pas caricaturer, mais
quelquefois.
C'est pas tellement la prudence, c'est surtout que Paris, même si on fait le Grand Paris avec sa première couronne, c'est quand même un lieu assez gâté. Donc je comprends pourquoi Beaubourg a fait un petit à Metz et pas,
ailleurs. Et pas ailleurs. Ouais.
Et pourquoi le Louvre est allé faire un petit à Lens dans le bassin minier. Un très beau petit d'ailleurs. Donc il y a quand même une raison à ça. Paris n'est pas une ville sous-dotée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Dernière chose, il y a une vraie déclinaison numérique à Beaubourg, ailleurs aussi, mais à Beaubourg c'est clair, c'est-à-dire que le numérique qui est entré dans nos vies, eh bien il est dispensé à Beaubourg, il est même enseigné, je crois. Hein,
oui, absolument, il y a des ateliers qui sont gratuits, et on voit des gens du troisième âge qui viennent apprendre parce qu'ils ont envie d'acheter une tablette mais voudraient savoir un peu comment ça marche et tout ça. Et c'est vraiment un endroit généreux, quoi. Il n'y a rien à dire. On peut aussi, vous voyez, quand on est au chômage, eh ben on vient, on passe la journée, on regarde la presse, on regarde les télés étrangères. Il y a quelque chose, oui, de très généreux, oui, c'est vraiment le mot.
Bien, alors écoutez, moi je ne suis pas l'attaché de presse du centre Beaubourg. J'ai quand même vous donner le programme, parce que je trouve que c'est du ressort de l'intérêt général, hein, du service public. Un joli week-end au centre Pompidou pour ses 40 ans. Alors il le fêtera avec le public les 4 et 5 février, c'est-à-dire samedi et dimanche, de 11h à 2h du matin le samedi dans le forum pour la fin de soirée jusqu'à 23h dans les autres espaces. Et puis de 11h à 21h le dimanche avec des visites guidées, une parade, des performances, des concerts, des ateliers, puis des films qui retraceront l'histoire de Beaubourg en continu. Et pour une information complémentaire après l'écoute de cette émission, après des spectacles de danse ou de musique, il y aura un grand bal samedi de 20h à 21h. Alors tenue conseillée monochrome, ça veut dire une seule couleur de votre choix, de la tête aux pieds. Voilà, puis le dimanche, des ateliers réservés aux 3-12 ans avec crayons et papier inviteront à la création. Des conteurs proposeront tout au long de la journée des visites familiales avec des histoires drôles et poétiques sur des œuvres du centre. Voilà, tout sera gratuit, y compris des expos. Moi, si un jour je perds mon travail, je suis sûr d'être embauché par le centre Beaubourg. Voilà, merci Sybille Vincendon. Et puis
merci,
on se dit, dans le cadre de notre partenariat avec Libération, à bientôt pour un autre sujet.
À bientôt.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le centre Beaubourg, l'histoire d'une polémique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le détournement du paquebot Santa Maria, c'était en 1961.